C'était mieux après. Marc Le Greffe marche dans la plaine plate. Il porte une casquette blanche, avec un petit ventilateur sur la visière, une chemise avec des motifs de cravate verte, une cravate verte, un pantalon noir très banal et des tongs. Sous ses pas craquent les tiges sèches des blés récemment coupés. C'était en effet encore les moissons, pas plus tard, mais pas plus tôt non plus, qu'il y a 2 semaines. Il fait chaud et sec. Alors forcément, Marc a chaud. Il met sa main en visière dans le prolongement de sa casquette pour voir loin devant, loin, très loin, loin, loin. Il aperçoit de grands tubes sortis de terre. Des vers de terre métalliques plantés là au milieu des champs. Ils se dressent et déplient leurs arcs de fer. Ils montent droit dans le ciel vide, ces lombrics à moteur. Ce paysage lui rappelle les westerns qu'il regardait quand il était petit. Il adorait ça. Il entend encore la musique. Il pense que c'est bien étrange d'aimer les westerns quand on est greffier de justice. Il sait bien, lui, qu'il n'y a pas les vilains d'un côté et les gentils bougres de l'autre. D'abord, ce serait drôlement ennuyeux. Et puis, de toute façon, ça ne se passe pas comme ça. Toutes ces années passées à prendre des notes au cours des procès, avec plus ou moins de sérieux, il faut bien l'admettre, lui auront au moins appris ça. L'espèce humaine bafouille d'incohérences, carbure à l'imprévisible, et déconcerte l'arithmétique. Pour le meilleur et pour le pire, et pour ce qu'il y a entre les deux.
Marc est comme ça. Il pense beaucoup. Peut-être trop, allez savoir. Et quand il s'y met, ça part dans tous les sens. D'ailleurs, il peut parfois être difficile à suivre. Toujours est-il que le temps passe et qu'il ne sait pas quelle direction prendre. Il décide de tenter sa chance dans le premier silo venu. Justement, en voilà un planté dans le bas-côté. Devant le silo, il y a une ornière, ou plutôt un fossé. Marc recule de quelques pas, s'assure que sa casquette est bien maintenue par la languette avec petit cran en plastique, il fronce les sourcils, signe d'une forte concentration, et saute. La réception est bancale. Il manque de tomber. La lanière de sa tongue droite lui tord le petit orteil. Il grimace et se relève en s'accrochant aux touffes d'herbe jaunie. L'entrée du silo n'est pas visible. Il faut faire le tour pour apercevoir une vieille plaque de tôle rouillée entrouverte. L'ouverture, qui mesure à peine 75,23 cm au carré, se situe à un bon mètre de hauteur. Debout sur la pointe de pied, Marc passe une première jambe à l'intérieur. Plié en quatre, il s'apprête à entrer dans le silo, mais relève la tête juste un peu trop tôt. Il se cogne le front et étouffe un juron. Une énorme bosse apparaît immédiatement et l'empêche de remettre sa casquette.
Dans le silo, il fait noir. Seul un trait de lumière filtre à travers l'ouverture. On y voit la poussière y tourner au ralenti. Marc pense au western. Il avance dans le silo. Il sent les grains de blé oubliés à travers la semelle en caoutchouc de ses tongs mal dégrossis. Au milieu du silo, un homme est assis, sur une chaise. Les bras croisés sur ses genoux, la tête inclinée, le visage caché derrière la visière d'un vieux béret aux couleurs passées. Il a forcément entendu Marc entrer. Pourtant, il ne lève pas la tête.
Je suis entrée et j'ai frappé. Enfin non, pardon, c'est l'inverse, je m'embrouille. Ça m'arrive souvent de m'embrouiller du reste. Je dirais donc que je suis entrée par curiosité, par nécessité aussi. Car notez bien que si je me trouve dans cette région-ci, là, aujourd'hui, c'est parce que je cherche le procès. Or donc, comme je sais de sources sûres que cet événement a lieu dans un silo à grains, ma foi, probablement fort semblable à celui dans lequel nous nous trouvons actuellement, je me suis permis de venir voir à l'intérieur. Mais il m'apparaît maintenant que je me suis trompée, ce qui somme toute m'embête un peu, car je suis déjà en retard. J'ai dû suivre un mauvais sillon. Sauriez-vous m'indiquer où il se trouve ?
Qui ça ?
Eh bien, le procès.
Je sais pas, j'attends mon procès. On m'a dit d'attendre ici, alors je l'attends.
Vous attendez qui ?
Eh bien, mon procès.
De quoi vous accuse-t-on ? Avez-vous commis quelque faute ? Pourquoi ne répondez-vous pas ?
On m'a dit d'attendre ici. Mon procès, d'attendre ici.
Fort bien, je vous prie de m'excuser pour mon indiscrétion. Malheureuse déformation professionnelle, j'en ai peur. Je ne m'attarde pas davantage et vous laisse à votre jugement, dont j'espère sincèrement que le dénouement saura se dénouer dans la bonne humeur générale.
Marc le greffe se retire discrètement. Zut de zut, ce n'était pas le bon silo. En tout cas, pas celui du procès auquel il doit se rendre. Distrait personnage, il oublie de se baisser en sortant du silo et se cogne la tête contre la tôle pour la seconde fois. Une deuxième proéminence douloureuse au sommet de son crâne vient compléter ce qui s'annonce être les prémices d'une anthologie certes atypique, mais assurément fertile. Ça lui fait très mal. Et, cerise sur le ciboulot, il a oublié le petit tube de granules d'arnica qu'en temps normal il emmène partout avec lui, dans l'éventualité de ce type de situation fâcheuse. Mais Marc est plutôt du genre optimiste. Il se remet en marche, son carnet sous le bras, en trébuchant tous les 3 pas et demi. Il faut dire que ses pieds glissent dans cet ongle un peu trop large. La scène du silo se répète encore 3 fois. Nous ne nous attarderons donc pas dans les détails. Sachez seulement qu'à chaque fois que notre greffier s'engouffre sans peur dans ses grands tubes aspirateurs, il se retrouve invariablement dans la même situation. Un homme, parfois une femme, est assis, au milieu du vide, dans l'attente de son procès. Mais ce n'est jamais celui que Marc cherche. Vaillamment, et sans doute guidé par l'odeur de la justice, il continue malgré tout sa déambulation platonique. L'horizon est toujours aussi rectiligne, d'une rectitude à faire froid dans le dos. Bientôt, une cabane en bois apparaît au détour du chemin. C'est un estaminet, une jolie gargote, une auberge pittoresque s'il en est, un bistrot du coin. Une fois encore, Marc pense au western. Aventureux comme pas deux, il pousse la porte de la guinguette et passe la tête dans l'entrebâillement. Un chat noir est accoudé au bar. Devant lui, un cappuccino avec de la crème chantilly refroidie. Il n'aime pas quand c'est trop chaud. Pourtant, tout le monde sait qu'il n'y a rien de pire qu'un cappuccino tiède. Il converse avec le tenancier. Celui-ci ne dépasse pas le comptoir. Dans le langage courant, on dirait que c'est un nain. Et c'est ce qu'il est, effectivement. On devine qu'il essuie des verres, car on aperçoit régulièrement le torchon voler au-dessus du bar quand il le jette sur son épaule. La contrôleuse passe. Elle ramasse les verres vides. Derrière elle s'étale un sillage légèrement amer de déodorant. Un homme s'assied au comptoir, étalant tout autour de remarquables relents de sueur.
Vous êtes là ?
Je peux changer de place.
Moi, je suis à ma place ?
Oui, mais pas moi.
Vous voulez prendre ma place ?
Dans un autre coin de la salle, un môme et son père jouent autour d'un plateau où circule un train électrique. Il file à toute vitesse au travers des forêts d'arbres coton-tiges, des moutons verts de gris, des pierres papier-mâché. Il joue au jeu du môme qui se tient mal assis dans les virages. Le paysage de gares et de rails fantomatiques nous emmène on ne sait où. On ne sait tout. On ne sait où. Ça n'a pas d'importance.
Assieds-toi bien.
Je veux pas m'asseoir.
Alors tiens-toi.
Je veux pas me tenir.
Tiens-toi, je te dis.
Non.
Si.
Non.
Si, tu tombes, ce sera ton problème, pas le mien.
Bref. Par ailleurs, un sanglier et une sorcière jouent à la bataille navale. On sait que c'est une sorcière parce qu'elle porte un t-shirt noir avec écrit dessus, en gros imprimé blanc, « Proud to be a witch ». Fière d'être une sorcière. Quant au sanglier, ben c'est quand même assez clair que c'en est un. Les comparses devisent tranquillement.
De façon générale, la couleuvre a bon goût. Grillée aux petits oignons. À avaler tout cru, à toutes les sauces et à tous les repas.
Je vis entouré de serpents. Animaux de valeur, sûrement. Sans sucre ajouté. Oh, le cœur, sinon. J'ai du diabète. Demain, j'ai rendez-vous avec eux pour l'opération immobilière.
Tu as vu ? L'horloge avance de quelques minutes sur l'appendice caudal immense. La toupie tortille sans pattes qui s'agite. Tic-tac, tic-tac.
Serpent, serpent. Mais je vais y aller quand même la serpette en avant. Et je vais leur sourire avec de grandes dents. Dents de loup à croquer sans vergogne. Serviette autour du cou.
Bon appétit, cher compagnon.
Assis dans un coin, un vieux loup bigleux déchiffre avec peine le journal de la veille. Il faut dire qu'une tache de café barbouille la page. On peut encore y lire le gros titre de couverture. La fin du monde, c'est pas triste. Le vieillard sirote paisiblement un jus de groseille. Il a spécialement demandé au nain qu'il lui mette une paille jaune fluo qui fait du bruit quand on aspire, histoire de rappeler au monde son existence par des bruits de succion, ma foi fort indisposants. Mais revenons à Marc. Intimidé, il pousse doucement la porte et entre dans la pièce. Il se racle la gorge pour attirer l'attention, même si cela n'était pas vraiment nécessaire. Son entrée ne risquait pas de passer inaperçue en ces lieux habituellement squattés par les inconditionnels du troquet uniquement. Les têtes pivotent sur leurs gonds et accueillent le nouveau venu avec entrain.
« Mais entrez, entrez donc! Venez boire un coup avec nous! Ne vous gênez pas, entrez, entrez !»«
C'est que je ne voudrais surtout pas vous sembler impoli, mais je suis malheureusement un peu pressée par le temps. Je suis déjà en retard, à vrai dire. »«
En retard? En retard de quoi ?»«
Eh bien, je me rends au procès, vous savez, mais je ne trouve pas le bon silo. Sauriez-vous où le trouver ?»
Ah, vous allez au procès. Tout le monde y est. Sauf nous, tiens. On a déjà donné là-dedans, et ça nous a bien suffi.
Oui.
Ne m'en parlez pas. Une truie intervient. Je ne peux plus voir un enfant en pâture. Pardon, en peinture.
Mais si vous voulez y aller, c'est dans le silo B-7.
Le nain est sorti de derrière son comptoir pour voir le visiteur. Il le prend par le bas de la manche.
Viens par là, toi. Je vais te montrer. Tic-tac, tic-tac.
Poussé gentiment dans le dos, il s'avance vers la table du sanglier et de la sorcière. Le nain lui montre le plateau de jeu. La sorcière a déjà coulé le contre-torpilleur et le sous-marin du sanglier. Lui s'échine à vouloir trouver le porte-avions de la sorcière, sans succès jamais. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est son idée fixe à lui.
Vous voyez, là, on est en H4. Vous êtes arrivé par la I. En sortant, vous prendrez donc tout droit en restant sur la colonne 4. Puis, arrivé au croisement avec la ligne B, il faudra tourner à droite. Pas à gauche, hein. À droite. C'est ça. Et vous tomberez sur le B7. Voilà. Vous voulez que je vous fasse un schéma ?
Après avoir chaleureusement remercié les aimables personnages, Marc se remet en route d'un pas nonchalant vers le silo B7 susmentionné.
Thank you.
Scouts and the Indian Chief. We dissing their voice. It sounds so great. We were lost in a huge arena. They found the answers derrière le soleil. We're not the heroes when we face to the damage. We found the answers, maybe too late. We were lost in a huge arena. You found a whisper, memory.
Sans doute est-il temps de préciser les raisons de sa venue en ces terres plates. Si Marc désire assister à ce mystérieux procès, c'est pour la simple et bonne raison qu'il exerce la profession tout à fait respectable de greffier de justice. Mais ça, il ne le sait pas. Ou plutôt, il fait comme s'il ne le savait pas. Il faut dire qu'il ne prend pas son rôle très à cœur. En fait, ça l'enquiquine carrément. Mais Marc adore les tartelettes aux fraises, surtout celles avec le sirop très sucré, un peu gélatineux au-dessus. Et il faut donc bien gagner un peu de quoi s'en pourlécher le coin de la bouche, le bout du nez, et quand il est vraiment très pressé, le dessus du menton. Greffier, après tout, est un métier tout à fait honorable. Pourtant, Marc n'aime pas ce mot, greffier. D'abord sa grêle dans la gorge, puis sa persifle en sortie de syllabes. Les lèvres pincées ne laissent filtrer un mince filet d'air amer. Peut-être que s'il changeait juste quelques lettres, par exemple, s'il inversait les deux F avec le G, s'il supprimait l'un des deux F, car un F suffit bien en début de mot, puis qu'il remplaçait le G par un S, on obtiendrait alors fraisier, F-R-E-S-I-E-R, ce qui, pour être parfaitement correct, requerrait d'être écrit avec A-I et non pas E. On tomberait ainsi sur fraisier, F-R-A-I-S-I-E-R, plante admirable de la famille des rosacées, ayant permis à l'inventeuriste des tartelettes aux fraises d'inventer les tartelettes aux fraises. Bref. Entre-temps, le voilà arrivé sans encombre devant le silo B-7. Du dehors, il entend déjà les piaillements de la foule turbulente. Il soupire. Son carnet à petits carreaux sous le bras, il entre d'un pas décidé dans le silo. L'ouverture, en temps normal plutôt étroite, comme nous avons pu le voir, a été agrandie pour l'occasion. Deux avocats en robe discutent avec entrain dans l'antichambre.
Innover, c'est sortir des silos. Se servir à bon escient des concepts et enjeux, distinguer thèmes et thématiques, c'est important. De même, objets et objectifs, études et analyses, problématiques, périmètres, champs, spectres, enfin, tu vois, c'est pas si compliqué dans le fond.
Dans le fond du silo, oui. Mais attention à la fermentation.
Attention aussi à ne pas confondre innovant et novateur.
Évolution, novation, révolution, bien sûr.
Alors moi, ma stratégie, c'est l'analyse de dispositifs socio-techniques.
Tu veux dire l'approche socio-technique des dispositifs ?
Oui, enfin, globalement, on parle toujours de scénarios de diffusion des techniques, de développement de filières.
Oui, mais alors, on est d'accord, il faut une approche multifonctionnelle pour éviter que ce soit la cinquième roue du carrosse, l'innovation, intriquée avec d'autres objets.
Le silo, finalement, est considéré ici comme point de départ.
Ou comme point de mire.
Donc, reprenons. Innover, c'est sortir des silos.
Sortir des silos.
Et l'innovation, c'est l'évolution de dispositifs existants ou la rupture vis-à-vis de référentiels dominants. Ce n'est pas optimiser le fonctionnement.
Optimiser le fonctionnement.
Lister l'ensemble des fonctions que remplit un dispositif.
Oui. Non. Enfin, ça dépend.
À l'intérieur, c'est le box. L'assemblée ici présente compte tout au moins une centaine de... Enfin, en gros, il y a des hominidés, pour faire sérieux, mais pas que. Une faune joliment variée monopolise les sièges rembourrés. Des vaches, une conductrice de poids lourd, un lémurien, une biche et son faon, un facteur, un nématode et sa clique de rampant, une caissière de super-supermarché, du gué en boule, une taupe commune, un ours blanc, un expert comptable, un bolet bleuissant, etc., etc. Les retardataires ont dû se contenter des bancs en bois disposés à la hâte en bas des gradins. La configuration générale forme une arène, un cirque, une place publique, avec un espace circulaire au milieu. Un homme y est assis. Il est agriculteur. On ne connaît pas son nom. On ne lui a pas demandé non plus. Alors, dans la mise en accusation, on a écrit « Agri-X ». Marc Le Greff arrive donc au beau milieu d'un incroyable fouillis. On apostrophe Agrix, qui lui reste silencieux. Alors, devant son mutisme, on accuse le voisin. On s'interpelle d'un bout à l'autre. On s'égosille dans tous les sens. On se renvoie la faute comme une patate chaude un soir de raclette.
Non mais, ça va pas? Il est où là? Le territoire vivable, habitable, supportable et désirable? Hein, il est où? Tout ça c'est de votre faute à vous les champignons. Vous ne faites pas votre boulot. Et moi? Je travaille moi, madame. Je ne vis pas au crochet des autres. À quoi tu sers, toi? Et la lumière? Tu l'as éteinte, toi, la lumière? Pourquoi moi plutôt que toi? C'est toujours les mêmes qui font tomber leur tartine côté confiture, de toute façon. C'est pas surprenant que la révolution capote à chaque fois. Et le temps en boîte? T'en achètes pas, toi, peut-être? C'est pas vrai, ça. On peut même plus faire son mousse tranquille. La 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 la, je ne vous entends pas.
Marc Le Greff n'y comprend rien. Il imaginait déjà les juges lui tirant les oreilles à cause de son retard. Faute professionnelle. Pourtant, personne ne fait attention à lui.
Alors il s'avance et va s'asseoir à côté d'un gypaète barbu, au troisième rang, juste derrière un poney avec des tresses. Marc sort son carnet. Il taille ensuite son crayon à papier soigneusement et attend l'inspiration. Elle vient bientôt à lui. Un crottin fraîchement déféqué s'étale devant ses pieds. Magnifique. La déjection, que le dessin, par son art anobli, offre le spectacle tout à fait saisissant d'un certain raffinement intestinal. Fébrile, Marc commence à dessiner, indifférent, au capharnaüm ambiant. À peine a-t-il le temps d'esquisser les premiers traits d'une œuvre assurément homérique que le silence retentit soudain dans le silo. Lentement, Agrix s'est levé, face à ses accusateurs. Et il parle.
Je ne me souviens plus de mes rêves. Je crois que j'ai construit ma vie à partir de mes rêves, mais je ne sais plus à quoi ils ressemblaient. À quoi vraiment ils ressemblaient. Je voulais devenir riche, je crois, mais je n'avais pas de plan précis, c'était une idée vague. Devenir riche sans vraiment savoir pourquoi. Je voulais que ma vie soit heureuse. J'avais cette idée-là en tête, que ma vie soit heureuse. Je croyais que c'était assez, suffisant, qu'avec une idée comme ça dans la tête, c'était assez. Personne ne m'avait dit le contraire. J'ai été naïf, peut-être. Peut-être que c'est ça qui s'est passé, que j'ai été trop naïf. Je n'ai jamais vraiment compris ce qui s'est passé. Pourquoi ça a mal tourné? Je voulais avoir une ferme. C'était ça la chose que je voulais. C'était simple. M'acheter une ferme et l'exploiter. J'avais grandi dans une ferme, je savais ce que c'était. Les champs, les bêtes, les tracteurs, la pluie, la terre, le froid. Je savais exactement à quoi ça ressemblait, ce qu'il fallait faire et comment les choses se passaient. Et c'était ça que je voulais. Travailler dans une ferme, m'occuper des bêtes, cultiver la terre. Cette chose que mes parents m'avaient montrée, mon père, ma mère, que je savais faire. J'aimais travailler la terre, être dehors dans les champs. Ce n'était pas élaboré, cet amour. Je ne mettais pas de mots dessus. Mais c'était là. J'étais sur mon tracteur, j'écoutais la radio, je traçais des sillons. Autour de moi, toutes les choses, je les connaissais. Les champs, je les connaissais. Les haies, les chênes, les bosquets, je les connaissais. Les routes, je les connaissais aussi. C'était chez moi. C'était mon monde. Un monde qui était à moi et dans lequel j'avais ma place. Et tout le monde a tout vu. Ce sont les yeux de tous qui se sont posés sur moi au moment où j'ai échoué. Il y avait ma vie, ce que je vivais avec ma femme et mes enfants à la ferme. Et puis soudain, ce n'était plus ma vie. Elle n'était plus à moi. Mon père, ma mère, mes frères et sœurs, mes voisins, mon banquier, la boulangère. Tout le monde a eu le droit soudain de regarder ma vie. Parce que j'avais échoué, il y a eu comme une permission générale donnée à chacun, à tous, de penser quelque chose de ce que j'avais fait. De juger ce que j'avais fait, mes choix, mes décisions. C'était dans le village, après la messe le dimanche, dans les vestiaires à la fin des matchs de foot. Mais je savais ce qu'il se disait, comment ça marchait. J'avais déjà assisté à ça, été le témoin de ça, ces lynchages, ces déversements de haine, de mépris, de méchanceté, ces déversements, puis le silence après.
Le silo sonne bien creux maintenant. Personne n'ose l'ouvrir en premier. On se regarde du coin de l'œil, sans bouger.
Clac, cling, clong. C'est Marc. Il a fait tomber son crayon. Toutes les têtes se tournent vers lui. Ah bah tiens, voilà le greffier. Il doit bien savoir, lui, quoi faire. Ou reprendre le procès. Il a dû tout noter. C'est son travail. Marc se gratte la tête et grimace quelque chose. Il n'a absolument rien écrit et ne sait pas davantage comment sortir de cette impasse. Il baisse les yeux sur son dessin. Le brin de paille au premier plan est particulièrement réussi. Alors, donc ?
Un rat musqué, visiblement embarrassé, propose. ça vous dit, on va boire un verre ?
Ensemble, ils sortent du silo et se dirigent vers le café du coin. On recommence à parler, on retrouve un peu de joyeuseté. Le greffier emporte le crottin avec lui pour finir son dessin. C'est là l'avantage des modèles mobiles. Celui-ci se glisse aisément dans la poche. Alors, il faut faire attention, bien sûr, manier le crottin avec précaution et ne surtout pas l'écraser. La troupe marche en causant, cause en marchant. Ils arrivent enfin. Marc reconnaît le bistrot où il s'est arrêté demander son chemin. Familier des lieux, il ressort le crottin et s'installe tranquillement pour achever l'esquisse. La caissière, toujours heureuse d'apprendre de nouvelles choses, l'observe avec attention. Elle aime la façon dont il fait glisser son crayon sur la page blanche. Il ne faut pas être pressé. Regardez patiemment le dessin s'animer. Mais la caissière n'arrive pas à reconnaître ce que Marc dessine. Le modèle lui-même la laisse perplexe. Elle lui demande ce que c'est qu'il dessine. Marc est bien en peine de répondre. Il ne le sait pas exactement lui-même. Il trouve ça beau, tout simplement. C'est pour ça qu'il le dessine. Le lézard, qui avait laissé traîner ses oreilles, se réjouit de pouvoir intervenir dans la conversation. On comprend qu'il s'agit ici d'un abus de langage, dans la mesure où les lézards ne possèdent pas d'appareil auditif externe, mais de discrets orifices ovoïdales. Il est en effet jaloux du greffier. Il aurait aimé pouvoir s'appeler greffier lui aussi. Il aime beaucoup les sonorités du mot, rocheuses et sifflantes. Il trouve qu'elles lui conviendraient beaucoup mieux plutôt qu'à cet énergumène mou et flottant à la casquette ridicule. Le saurien se dresse donc sur ses pattes arrière et, par le privilège dont jouit celui pouvant justifier d'une ascendance préhistorique, leur explique avec snobisme.
Ah, je connais le crottin. Il est quelques pages après moi. C'est Francis qui nous a écrit. Lisez vous-même. Je l'ai toujours sur moi, au cas où l'on viendrait justement à s'y intéresser.
Brioche paille, de désagrégation plutôt facile. Fumante, sentant mauvais, écrasée par les roues de ma charrette, ou plutôt épargnée par l'écartement des roues de la charrette. L'on est arrivé à vous considérer comme quelque chose de précieux. Pourtant, l'on ne vous ramasserait qu'avec une pelle. Ici se voit le respect de l'humain. Il est vrai que votre odeur serait un peu attachante aux mains. En tout cas, vous n'êtes pas du dernier mauvais goût, ni aussi répugnante que les crottes du chien ou du chat, qui ont le défaut de ressembler trop à celles de l'homme pour leur consistance de mortier pâteux et fâchement adhésif. Cette émission a été réalisée par Marine Legrand et Arciné André. Merci à Charline Bougeois, Alexis Hubé, Mathieu Godefroy, Fabienne Barato, Roderick Béra, Jacques Lerouzic, Hervé et Léo Skividan pour leur jeu d'actrice remarquable. Merci à Stéphane André pour sa lecture de texte tirée de la pièce de théâtre Le Père, mise en scène par Julien Gosselin, d'après L'Homme incertain de Stéphanie Chaillot. Les musiques que vous avez pu entendre ont été composées par Pierre Rigal et Moby. Once told